VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 22 septembre 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. Au sommet du journal. À l'ONU, les chefs d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune de l'Assemblée générale au troisième jour du débat.
Nous ne permettrons en aucun instant de nous dérober chaque fois qu'il s'agira d'exécuter des décisions sécuritaires.
Vous avez reconnu la voix du chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, que vous suivrez à nouveau dans un instant. À l'ONU, Sergueï Lavrov rejette les accusations occidentales sur l'Ukraine. En Guinée, la junte qualifie de honte et de mensonge les propos du président de la CEDEAO. En RDC, une manifestation contre l'inaction de l'armée face au M23 a fait un mort et deux blessés. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et l'Espoir. Mais tout d'abord, le journal. Le débat à l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Au programme de ce jour, les discours des leaders du Niger, du Burundi et de la Guinée. Notre correspondante à New York, Dili Diko, fait le point.
Le président nigérien Mohamed Bazoum s'est focalisé sur les défis de son pays, de la région du Sahel, le dérèglement climatique et ses effets, comme les sécheresses et une aggravation de l'insécurité alimentaire. Il a ensuite parlé de la situation sécuritaire et du terrorisme dans un environnement sous-régional défavorable et cité en exemple la Libye et le Mali. Remerciant la France dans le cadre de l'opération Barkhane et les partenaires pour leur soutien, il a appelé la communauté internationale à plus d'action dans la lutte contre la prolifération des armes.
L'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel comporte des lacunes qui mérite d'être identifié et pris en charge. En effet, ce terrorisme tire une grande partie de ses ressources financières du trafic transsaharien de la drogue en direction de l'Europe et de l'Asie via la Libye. L'essentiel des armes qui inondent le marché de la violence terroriste sahélienne viennent également de Libye. Nous sommes, me semble-t-il, en l'espèce face à une problématique qui n'est pas particulièrement compliquée. Pourquoi dès lors n'a-t-il pas été possible de mettre en place un dispositif adéquat avec les moyens nécessaires à cet effet pour combattre ce phénomène convenablement?
Mohamed Bazoum a aussi fait état de la poussée démographique dans son pays et des besoins dans le domaine de l'éducation, notamment pour les filles. Les présidents gambiens Adama Barrow et Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau ont tous deux évoqué la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. À la mi-journée, le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est exprimé. Voici un extrait de son discours.
Le Burundi ne cesse de se battre, bec et ongles, pour contribuer au retour de la paix dans le pays où elle est troublée, dans le cadre des Nations Unies, ou dans celle de l'Union africaine ou de la région. En témoigne notre intervention en Somalie et en Centrafrique. Dans le même souci, le Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'initiative de la communauté est-africaine.
Le Libéria, le Zimbabwe, le Soudan et la Somalie s'expriment aujourd'hui. Puis ce sera au tour du Premier ministre guinéen Bernard Gomou de prendre la parole à la tribune des Nations Unies. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rejeté les accusations occidentales concernant la guerre en Ukraine. Monsieur Lavrov dénonce pour sa part l'impunité de Kiev. C'était lors d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité à New York consacrée à la situation en Ukraine. Yakuba Ouedraogo nous en dit plus.
Kiev doit son impunité à ses partenaires occidentaux, a affirmé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, devant ses homologues dont l'Ukrainien Dmytro Kuleba. Les États-Unis et leurs alliés, avec la connivence d'Organisation internationale des droits de l'homme, ont couvert les crimes commis par le régime de Kiev, accuse M. Lavrov, en réponse à ses pairs qui ont évoqué les abus de l'armée russe en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe a aussi rejeté d'avance le travail de la Cour pénale internationale, dans laquelle la Russie n'a aucune confiance, dit-il. Le procureur de la Cour pénale internationale a pris part à cette réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères. Mercredi, à la tribune de l'ONU, Le président Joe Biden a affirmé que cette guerre a anéanti le droit de l'Ukraine à exister. La Russie a annoncé mardi des référendums d'annexion à partir de demain dans 4 régions contrôlées par Moscou, dans l'est et le sud de l'Ukraine.
Washington a annoncé aujourd'hui des sanctions économiques visant la police des mœurs iraniennes et plusieurs responsables de la sécurité pour les violences contre les manifestants, ainsi que pour le sort de Mahsa Amini, une jeune femme morte après son arrestation. Iran Human Rights, basé à Oslo, a annoncé aujourd'hui que pas moins de 31 civils ont été tués en Iran depuis le début des manifestations réprimées par les forces de sécurité contre la mort de la jeune femme après son arrestation. De son côté, la télévision d'État a annoncé aujourd'hui un bilan de 17 personnes, dont des manifestants et des policiers ayant péri dans ces manifestations. Le directeur général de l'OMS soutient que la fin de la pandémie de COVID-19 est certes en vue, mais encore loin. Nous avons passé 2 ans et demi dans un long et sombre tunnel et nous commençons tout juste à entrevoir la lumière au bout de ce tunnel, a déclaré ce jeudi Tedros Adhanom Ghebreyesus depuis New York.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, le colonel Amara Camara, numéro 2 du régime militaire, s'est livré à une critique sévère du président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo. Un sommet de la CEDEAO doit se tenir à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Nathalie Barge.
Dans une vidéo, le colonel Amara Camara a déclaré, je cite, « Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son acteur et ternissent l'image de marque de la CEDEAO ». Fin de citation. Hier, M. Embalo a prévenu que la Guinée risquait de lourdes sanctions si elle persistait à maintenir une transition de 3 ans. Il affirme avoir obtenu, lors d'une visite en Guinée, un accord avec les militaires pour une transition de 2 ans, ce que nie le colonel Camara. Ce dernier accuse Oumaro Sissoko Embalo d'avoir des prises de position personnelles, de manœuvrer pour faire prévaloir un candidat de son choix à la prochaine présidentielle guinéenne et d'avoir forcé la main de ses homologues ouest-africains pour la tenue d'un sommet en dehors du continent. Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent ce jeudi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies pour aborder en priorité la situation en Guinée et la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire.
En République démocratique du Congo, une personne a été tuée et 2 autres blessées aujourd'hui dans l'Est lors d'une manifestation. Les manifestants réclamaient la libération des zones occupées par les rebelles du M23. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
Cette manifestation, organisée à Rutshuru Centre, dans le Nord Kivu, a eu lieu à l'appel de la société civile pour protester contre l'inaction de l'armée congolaise face au M23 qui occupe depuis 100 jours Bunagana à la frontière ougandaise. Les activités ont été paralysées ce matin à Rutshuru, les écoles et boutiques fermées, la route nationale numéro 2 coupée, la police a tiré sur les manifestants, a déclaré Justin Bin Serouchago, rapporteur de la société civile, qui affirme qu'une personne est morte et 2 autres blessées. La personne décédée est un jeune, touché par balle au thorax, selon un responsable de l'hôpital de Rutshuru, sous couvert d'anonymat. Dans un discours mardi à New York, le président Félix Tshisekedi a de nouveau accusé le Rwanda d'agression militaire directe par le soutien présumé de Kigali au M23. Dès le lendemain, le président Paul Kagame a répondu que les accusations ne règlent pas la question de l'insécurité dans la région. Puis, à l'initiative du président français Emmanuel Macron, toujours à New York, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête pour tenter de faire baisser la tension entre les 2 voisins.
Les autorités de la Guinée équatoriale affirment avoir déjoué un projet d'attentat concocté par un groupe d'opposants. Un groupe de 20 individus allait faire exploser simultanément 4 stations-service, 2 dans chacune des principales villes du pays. Ce plan, qui incluait aussi des incendies dans des ambassades, était censé être mis en exécution le 29 septembre, ajoute Nicolas Obamba Nchama, le ministre en charge de la sécurité. Et puis l'Afrique du Sud a signé aujourd'hui de premiers accords pour la production d'énergie énergie éolienne dans le pays, alors que la crise de l'électricité dans la première puissance industrielle du continent s'est aggravée avec de nouvelles coupures drastiques de courant. Le pays a sélectionné 25 projets éoliens et solaires pour générer un supplément d'environ 4,5% par rapport à la capacité actuelle d'électricité. Ces installations ne devraient pas être en service avant fin 2024. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Mali a mobilisé 18 milliards de francs CFA à travers des obligations de relance hier sur le marché régional de l'Union monétaire ouest-africaine, soit un taux de couverture de 60%, car le pays misait sur 30 milliards pour financer son budget dans le cadre de son plan de relance économique. Le trésor public malien est de retour sur le marché depuis juillet, suite à la levée des sanctions par la CEDEAO et l'UEMOA. Au Togo, le gouvernement a annoncé des contrôles dans les stations d'essence, les rappelant à l'ordre contre toute manipulation de leurs machines de mesure et autres pratiques frauduleuses. Dans le souci de protéger les consommateurs de produits pétroliers, des contrôles inopinés vont être renforcés sur toute l'étendue du territoire national par les services techniques compétents du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, indique un communiqué invitant les consommateurs à signaler toute pratique frauduleuse sur le numéro vert 85 85. Shelter Afrique a approuvé un prêt de 18,5 millions de dollars à la société de développement immobilier Maison Super Développement au Katanga en République démocratique du Congo. Ce financement permettra de couvrir le projet de l'immeuble Jumbo à Kolwezi et des immeubles de bureaux et logements à Lubumbashi, le tout devant être achevé en 2024.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Entame difficile pour le Mali au Mondial féminin de basketball.
Oui, pour son premier match disputé ce jeudi à Sydney où se tient la compétition, le Mali s'est incliné 56-89 devant le Japon. Prochaine sortie pour les Maliennes demain vendredi face à l'Australie. La France a battu l'Australie justement 70-57 et la Chine a surclassé la Corée du Sud 107-44. Hier, les Américaines, triple tenante du titre, ont dominé la Belgique 87-72 pour leur entrée en lice dans ce mondial. Dans ce groupe A, les États-Unis affrontent demain vendredi Porto Rico, large vainqueur de la Bosnie-Herzégovine 82-58. La Belgique sera, elle, opposée à la Corée du Sud.
Basketball toujours, Robert Sarver annonce son intention de vendre les Phoenix Suns.
Suspendu un an par la NBA pour comportement raciste et misogyne, le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, a annoncé hier mercredi son intention de vendre la franchise, qui inclut aussi l'équipe féminine de Mercury, évoluant en WNBA, des mots que je regrette profondément éclipsent maintenant près de deux décennies de construction, d'organisations qui ont rassemblé les gens et renforcé la région de Phoenix grâce au pouvoir unificateur du basketball professionnel masculin et féminin, écrit Sarver dans un communiqué. Il a été accusé de comportement raciste, misogyne et sexiste dans une enquête menée par le géant des médias sportifs ESPN en novembre 2021 qui s'était appuyée sur le témoignage de plus de 70 employés des Suns.
8 athlètes kényans sanctionnés pour dopage depuis juillet.
Oui, l'athlète kényane Liliane Kasait Renguruk, 12e de la finale du 5000 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, est devenue hier mercredi la 8e représentante de son pays à être reconnue coupable de dopage par l'unité d'intégrité de l'athlétisme depuis juillet. La jeune femme de 25 ans, ancienne championne du monde du 3000 mètres, des moins de 18 ans, a été contrôlée positive au letrozole en janvier. Sa suspension de 10 mois court jusqu'en février 2023. Parmi les 7 autres athlètes pris en flagrant délit de dopage figure Lawrence Cherenaud, 34 ans, vainqueur en 2019 des marathons de Boston et de Chicago et 4e aux Jeux Olympiques l'année dernière. Face à la vague de contrôle positif, la Fédération kényane d'athlétisme a annoncé en juillet une relance de son unité de renseignement et d'enquête dans le but de démanteler les cartels et de porter la guerre contre le dopage à un nouveau niveau.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En RDC, un compromis aurait été trouvé entre les chefs coutumiers Bateke et Bayaka du Maïn Dombé. C'est ce qu'a déclaré le roi Mini-Congo, le chef Bassoukou, médiateur dans ce conflit. Selon lui, les deux communautés devront se retrouver pour le règlement coutumier de leurs différends. Mais la société civile estime que cette annonce ne reflète pas la réalité sur le terrain, car les tueries continuent. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alès Kati Kataï.
C'est le roi Mini-Congo, chef coutumier des Bassoukou, que le président Tshisekedi avait mandaté comme médiateur dans le conflit entre les Bateke et les Bayaka. Après une tournée dans quelques localités en conflit, Mini-Congo affirme avoir trouvé un terrain d'entente entre les deux communautés.
De trouver solution sur le plan traditionnel, je peux dire. Parce que les Kambouyo et Zalaki les Kambouyamabele.
Un compromis sur le plan traditionnel parce qu'il s'agit d'un conflit des terres. Les Bateke revendiquent cette terre, les Bayaka la même terre. La deuxième phase, ça sera les rituels. Parce que le sang a coulé sur leurs terres, les Bateke demandent réparation, la même chose aussi du côté Bayaka. Ils réclament aussi réparation.
Lors de sa descente, le chef Bassoukou, qu'accompagnait quelques autres chefs coutumiers ainsi que l'armée, avait réussi à collecter plusieurs armes blanches et armes à feu auprès des populations Yaka et Teke. Capitaine Jaguer est celui qui avait mené l'opération.
Comme nous étions avec le roi sur le terrain pour sensibiliser les gens, c'est ainsi que nous avons pu collecter ces armes. Ces armes sont sorties des maisons de gens. Elles étaient détenues par la population et on en a des preuves.
Malgré la collecte de toutes ces armes et l'arrestation de plusieurs suspects, la société civile de Kwamout juge cela insuffisant. Pour Martin Fouta, la poursuite des tueries est une preuve de l'échec de cette mission.
Le fait que les affrontements continuent, c'est qu'il n'a pas réussi sa mission. Et il y a des messages que les chefs portent, ils portent devant les médias. Ils craignent quand même de dire autrement. Sinon, en réalité, les faits continuent. Il y a la guerre toujours qui continue. Parce qu'après leur passage, on a attaqué d'abord, à leur présence, on a attaqué le village Fabiaka. Pendant qu'ils se trouvaient encore là-bas, avant-hier, on avait attaqué Bétani. Bétani, on avait tué 3 personnes. C'est qu'il y a toujours continuité.
Le roi Mini-Congo pointe du doigt accusateur certains élus de Kwamout d'être des tireurs de ficelles dans ces conflits. Des accusations que prennent avec pincette les députés Guy Moussomo. L'élu de Kwamout réclame des enquêtes sérieuses dans ces dossiers.
En disant « nous les députés de Kwamout », ça je le regrette. Il a une très mauvaise information. Il peut être influent quelque part, c'est vrai, mais dire ça... Il doit encore tourner sa langue mille et une fois. Puisque à l'urne, c'est secret. Qui me vote? Moi, je ne sais pas. Alors, on doit faire un travail sérieux. On ne doit pas rester sur les suspicions. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé un matin. Il dit que c'est elle qui fournit des armes. D'ailleurs, quand nous allons dans ce territoire-là, les gens qu'on a arrêtés sont clairement identifiés.
Selon des informations de la présidence de la République, les chefs coutumiers Bateke et Bayaka qui sont venus à Kinshasa devront y rester jusqu'à trouver une solution finale à ce conflit. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma sur 96.2 FM.
Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré, dite Mimi, a durement attaqué le président Macky Sall en l'accusant de favoriser sa famille dans la gestion du pays. La bruit fait suite à la mise à l'écart de Mimi de la présidence de l'Assemblée nationale, mais aussi du nouveau gouvernement nommé ce week-end. Une situation qui a relancé le débat sur le choix familial au détriment du mérite. La correspondance à Dakar de Seydina Abagay.
Garder les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, ou bien on ne change pas une équipe qui gagne, des maximes courantes, mais pour beaucoup de Sénégalais, elles ne sont pas appliquées ici. Mbaye Diène, étudiant en management, pense que le mérite a été aux abonnés absents dans les choix du président de la République.
Nous savons tous que cela ne doit pas marcher comme ça. Quand on est dans une république, on doit d'abord mettre le mérite avant toute chose. Donc, quand il s'agit des questions de népotisme, certes, on le voit dans d'autres pays en Afrique, mais cela ne doit pas être une règle. Ce qui est normal, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Un raisonnement auquel Vieux Modou Ndiaye n'adhère pas. Pour ce commerçant, le chef de l'État peut bel et bien faire appel aux membres de sa famille si ceux-là ont les compétences nécessaires.
Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'interdire le choix de la famille quand il s'agit de donner un poste. Du moment où la personne a la compétence de faire le travail, je crois même qu'elle mérite d'occuper le poste. Même s'il s'agit de votre fils, je ne vois pas le problème. Ce qu'on doit déplorer, c'est plutôt le fait de donner une tâche à quelqu'un qui n'est pas capable de le gérer.
Modou Dien, lui, n'en veut pas à Macky Sall pour ses choix. Ce mécanicien dit être habitué aux volte-face des hommes politiques.
Aminata Touré mérite ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, je pense que cela ne devrait même pas être une surprise pour elle parce qu'elle connaît bien Macky Sall. Où sont les militants qui étaient avec lui depuis le début? Ils ne sont plus là. Aminata Touré n'en faisait pas partie. Elle a quitté une formation politique, en l'occurrence AJPADS, pour rejoindre Macky Sall. Donc, je pense qu'elle ne doit pas se plaindre car le nouveau président de l'Assemblée nationale a toujours soutenu le président Sall.
Pour rappel, après avoir dirigé la campagne lors des récentes législatives, Mimi était annoncée à la présidence de l'Assemblée nationale, mais a été évincée au dernier moment alors qu'elle venait de recevoir au sein même de l'hémicycle une ovation debout des militants de la coalition au pouvoir. C'est à l'intérieur de l'Assemblée qu'elle dit avoir reçu un appel présidentiel lui annonçant la nouvelle comme une douche froide. Auparavant, envoyée à la conquête de la mairie de Dakar, Aminata Touré, dite Mimi, avait perdu contre Khalifa Sall à la commune de Grand Yoff, ce qui lui avait coûté son poste de premier ministre. Malgré tout, elle était restée au front lors de la campagne pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Par la suite, elle avait été récompensée avec la présidence du Conseil économique, social et environnemental, une autre sucrerie qui n'avait pas duré et avait également abouti à des relations heurtées avec le chef de l'État Macky Sall. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, un don de matériel d'une valeur de 18 millions de francs CFA a été remis aux femmes du débarcadère de Lokogro de la commune d'Atekoubé à Abidjan pour renforcer leurs activités. Le reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
La gestion du débarcadère de Lokogro est confiée à l'association des coopératives des marailleuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan. Sur le site, en tenue de travail blouse bleu ciel, assortie d'un badge au cou, Jenny Deborah est vice-présidente de l'association des marailleuses.
Nous avons départagé notre coopérative en 6 secteurs d'activité. Il y a le secteur des marailleuses et transformatrices. Il y a le secteur du gros pélagie au thon et le secteur du petit pélagie, les poissons aux écailles. Et il y a le secteur de la découpe. Il y a des jeunes gens aussi qui sont là pour faire la manutention. Ceux-là, on les a dénommés les chargeurs. Il y a des traiteurs de déchets de poissons.
Parlant de déchets dans un marché aux poissons, Dame Ake Viviane s'occupe de l'hygiène et de la sécurité.
Tout est parfait.
Une autre marailleuse, maman Comté, au surnom si bien trouvé, fait le décompte au quotidien.
Chez nous ici, là, nous sommes au débarcadère. Mohamed, 6. On débarque nos poissons, c'est propre et puis ça avance. Les prix aussi sont abordables.
Et il n'y a pas que des femmes qui s'affairent à ce débarcadère. Sylvain, gilet orange, képi à la tête, brouette à la main, ce jeune Ivoirien de 27 ans est sollicité par tout le monde.
Il peut m'en sortir avec soit 12 000. Si ce jour-là, ça n'a pas marché, 8 000 francs. Moi, j'ai ma femme à la maison, j'ai mon enfant. Ça me permet de gérer tout ça. J'ai déjà payé la scolarité de mon enfant avec le travail des chargeurs.
Dans l'ambiance du marché aux poissons, une autre vendeuse essaie d'attirer les clients.
Ça, c'est le mérou, le vrai. Je ne vends pas Ouya pour gâter mon nom. T'as dit, joli, viens, il y a du bon poisson, hein. 2 000 de temps, approchez pour voir les bons poissons ici.
Et tout le monde y trouve son compte.
Voilà, on voit ici, le poisson est frais. Tu as la possibilité de faire ton choix.
Au secteur fumage de poissons, l'exercice se fait avec beaucoup d'attention, selon Yvonne Adjoa.
On fait feu là doucement, prépare ça à noircir. À cause des graisses là, ça monte là. Tout poisson là brûle.
Madame Justine Doudouyi est leur porte-parole et pose de nouvelles doléances.
Nous souhaiterions que plusieurs conteneurs de poissons soient mis à notre disposition. Que vous nous octroyez un agrément de bateau d'une valeur de 200 millions de francs CFA.
La ministre de la Famille, Nassele Batouré, promet de transmettre à qui de droit.
Soyez rassurés que toutes les doléances seront traitées avec la plus grande attention
et des solutions idoines seront proposées.
Le secteur halieutique ivoirien génère près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects, dont le tiers est détenu par des femmes. Delphine Abouise, Abidjan, VOA Afrique.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
La Banque centrale américaine a relevé de 3 quarts de point son principal taux directeur, qui s'établit dans une fourchette de 3 à 3,25%. C'est la troisième fois d'affilée que la Fed procède à une hausse de cette ampleur pour faire face à l'inflation. La bourse de New York a terminé en baisse hier, prise de coup par les prévisions. Eric Manirakiza a joint Jean-François Seznec, un politologue spécialisé dans la finance à Georgetown University.
Ça va avoir un impact important au sens où ça fait monter bien sûr les taux d'intérêt. Ça fait monter les taux d'intérêt encore beaucoup plus fortement sur les quartiers. Donc ça va impacter la consommation des ménages et ça va effectivement certainement diminuer la croissance, ce qui peut-être pourrait amener une diminution de l'inflation. C'est pas sûr à 100% et c'est pour ça que la Fed fait savoir indirectement qu'il pourrait monter les taux d'intérêt encore deux ou trois fois par le même montant. Donc maintenant, on parle d'un taux d'intérêt qui passerait jusqu'à 5% du côté de la Fed et ça va bien sûr amener une diminution de la croissance, certainement.
Vous parlez d'un impact sur les ménages, dans quel sens? Négatif, positif?
Ah oui, certainement très négatif, oui, parce que ça veut dire que les gens auront moins d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ça a aussi un impact énorme sur l'achat des maisons parce que ça va faire monter les taux d'intérêt sur les hypothèques des maisons très très fortement. Et donc, il y aura moins de maisons d'achetées et de vendues, ce qui va certainement impacter beaucoup de monde. Et ça va impacter aussi, à mon avis, en tous les cas, le prix des maisons qui étaient, bien sûr, avaient augmenté d'une façon absolument énorme depuis quelques années. Mais là, ça va vraiment commencer à peut-être amener au moins une stabilisation des prix des maisons ou peut-être même une diminution dans beaucoup de marchés.
Les loyers ont aussi augmenté.
Bien sûr, comme moins de gens peuvent acheter des maisons, c'est-à-dire que plus de gens sont obligés de louer leurs appartements ou leurs maisons. Et ça, effectivement, ça veut dire que les loyers, les taux en moyenne, la demande augmente pour la location et ça va faire monter les prix de location, certainement.
Est-ce qu'on peut dire que l'économie américaine est en difficulté actuellement?
Non, pas vraiment. Enfin, parce que en fait, le fait est qu'il n'y a pas de chômage. Le chômage est en dessous d'un 3,5%, est à 3,5% pour le moment, ce qui est vraiment très très faible pour n'importe quel pays en fait. Même si ça remontait jusqu'à 4,5% comme on entend dire dans la presse, c'est quand même encore excellent. Donc on ne peut pas dire que l'économie soit vraiment en très mauvais état, mais il va y avoir quand même pas mal de dommages, si vous voulez, qui sera fait à l'économie, mais pas de façon terrible, quoi.
Il y en a qui craignent un risque de récession. Est-ce qu'on va vers là?
Ben, je pense que la plupart des gens disent ça, effectivement, et c'est certainement possible. Il est certain que plus on augmente les taux d'intérêt, plus il y a une chance qu'il y ait une récession. Mais est-ce que ce serait une récession grave? Probablement pas. Mais il faut voir ça aussi peut-être au sens mondial des choses. Parce que vous savez, quand les États-Unis toussent, ça veut dire que beaucoup de pays attrapent une maladie grave. Donc, si l'économie américaine commence à avoir quelques problèmes, ça peut avoir des conséquences très importantes sur d'autres économies mondiales et beaucoup plus fortes qu'ici.
Jean-François Seznec, un politologue spécialisé dans les affaires et la finance, à McDonald's School of Business de Georgetown University. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.